enrichi la culture française, nos centres du terme, avec les interventions de Patricia Curci et Sabine Rassage, qui vont redéployer un petit peu la question de la lesbophobie à une échelle géopolitique, tout en ancrant dans une réalité qui place la visibilité dans des enjeux vitaux, mais au sens premier du terme. Patricia Curzi est coordinatrice du projet Femme de l'ILGA, donc International Lesbian Gay Association. Elle a aussi coordonné récemment le rapport sur la santé des femmes lesbiennes et bisexuelles à travers le monde. Est-ce que tu peux juste présenter rapidement l'ILGA?
Oui, je le ferai. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, mon exposé sera centré sur l'invisibilité des femmes lesbiennes et bisexuelles. Et pour cela, je parlerai justement donc de l'invisibilité dans la santé en donnant comme exemple le rapport que j'ai coordonné sur la santé des lesbiennes et bisexuelles dans le monde. Je vais brièvement vous dire ce que c'est ILGA et sans trop vous assommer dans les détails. Donc, ILGA a été créé en 1978 par un groupe de gays au Royaume-Uni. Et maintenant, elle représente environ 550 organisations lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres de par le monde. Son objectif est double. Il s'agit d'œuvrer pour le respect des droits humains des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres et de lutter contre les discriminations sur base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Son rôle est donc de représenter les groupes LGBT dans le monde et de collecter et transmettre les informations concernant les questions LGBT, donner aussi l'opportunité aux groupes dans le monde d'interagir et de dénoncer les attitudes et les législations homophobes par de certains gouvernements, voire certaines instances internationales, et aussi de faire pression auprès des institutions comme les Nations Unies ou les communautés européennes pour que les droits des personnes LGBT soient reconnus et surtout respectés. Alors, ILGA est divisé en 6 régions, donc l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Australie et l'Océanie. Et chaque région est représentée par 2 personnes, une femme et un homme, qui siègent au conseil d'administration. Nous avons 2 secrétaires généraux, de nouveau une femme et un homme, un secrétariat femme et un secrétariat trans, et le secrétariat général qui est situé à Bruxelles, qui est composé de 2 employés, et vous voyez la moitié des employés ici même, nous sommes qu'à 2. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est de la visibilité des lesbiennes et des bisexuelles chez ILGA? Bon, je ne vais pas dire du mal de la structure, mais bon, on a mis en place un système paritaire au niveau de la structure, comme je viens de décrire. On a même engagé une responsable de projet femme, moi, dont le rôle ambitieux est de promouvoir la visibilité, la mise en réseau et la participation des femmes lesbiennes et bisexuelles au sein d'ILGA et même en dehors. Dans la pratique, la réalité est un peu plus nuancée que cela. En effet, il y a une difficulté par les lesbiennes de se faire entendre dans une structure mixte, dans ce cadre-ci, par mixte, j'entends une structure LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres. Aussi une difficulté par les lesbiennes de prendre une place et de s'impliquer dans un mouvement plus large. Bon, il y a des raisons historiques à cela. L'invisibilité, justement, qui est certainement une arme à double tranchant, elle sert certes à se protéger dans les médias et au niveau individuel. Il faut tenir compte que donc l'invisibilité, c'est faire à se protéger des discriminations, de la violence, de la lesbophobie ou de la biphobie. Et il ne faut jamais oublier que les lesbiennes subissent au moins 2 discriminations, celle fondée sur le genre en tant que femme et sur base de leur orientation sexuelle. Je dis au moins, parce que si en plus, c'est-à-dire sur le marché, on fait partie d'un groupe minoritaire ethnique, religieux ou culturel, les différences de discrimination s'accumulent. Donc, l'invisibilité porte aussi à la non-existence, c'est-à-dire qu'à long terme et au niveau du groupe, ceci est dommageable dans la mesure où qui est invisible n'existe pas. Donc, qui n'existe pas n'a pas de droit. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcer le coming out de tous les individus. On ne demande pas à une personne discriminée ou victime de se mettre en danger ou de se fragiliser encore plus. Mais en tout cas, il est important qu'au niveau du groupe, on œuvre pour créer les conditions favorables au coming out pour celles qui le désirent, pour celles et ceux aussi d'ailleurs. Je voudrais donner quelques exemples d'effets pervers de l'invisibilité. La plupart d'entre vous connaîtront certainement la symbolique du triangle rose. Donc, qui représente les gays qui ont été emprisonnés sous le Troisième Reich. Et beaucoup de personnes, y compris dans les mouvements LGBT, connaissent beaucoup moins le sort qui a été réservé aux lesbiennes sous le Troisième Reich. En fait, la plupart d'entre elles ont été emprisonnées en tant que criminelles de droit commun. Donc avec un triangle noir. Donc leur sacrifice en tant qu'homosexuel n'est pas reconnu. Et ce qui est terrible, c'est que à terme, il n'y aura pas de mémoire historique, ni de réparation, ni de reconnaissance de ce qu'ils ont subi. Un exemple plus proche de nous, c'est la recherche des fonds pour les projets lesbiens. Lorsque j'ai coordonné le rapport sur la santé des lesbiennes et bisexuelles pour ILGA, au niveau international, j'ai entendu le même son de cloche venant de différents pays. C'est-à-dire que il est très difficile, ou il est plus difficile d'obtenir des fonds pour des projets exclusivement lesbiens que pour des projets gays, par exemple, ou des projets femmes. Et il semble qu'on demande aux lesbiennes d'élargir le projet aux femmes et ou à la communauté gay. Et heureusement que les lesbiennes sont inventives, et cela, je dois dire, je l'ai retrouvé dans le parcours du travail que j'ai fait chez ILGA. Et beaucoup d'entre elles, mais d'abord, elles se basent sur un réseau de travail de volontaires, et aussi c'est ce qu'elles arrivent à faire, à grappiller des fonds par-ci et par-là pour les projets gays, entre autres pour les projets SIDA, pour lesquels les communautés gays ont obtenu beaucoup de fonds. Au niveau des études, il existe encore peu d'études sur la santé des lesbiennes, et je voudrais donner un exemple un exemple suisse. Je vais citer ce que a dit lors d'un exposé Catherine Gaillard, qui est présidente d'une association lesbienne suisse, l'Estime. Donc elle parle d'une campagne de prévention appelée Stop Suicide, qui a été mise en place par le gouvernement fédéral. Cette campagne visait à prévenir le suicide chez les jeunes adolescents parmi la population homosexuelle. Donc, je la cite, « Ces statistiques concernant les jeunes gays ont montré que les jeunes adolescents, à la découverte de leur homosexualité, étaient un groupe hautement à risque en ce qui concerne le suicide, de manière 4 à 5 fois supérieure aux jeunes garçons hétérosexuels. » Nous nous sommes inquiétés à l'Estime de l'absence de statistiques concernant les lesbiennes dans cette campagne de prévention du suicide chez les jeunes. Nous avons téléphoné à l'Université de Lausanne. La seule réponse que nous ayons obtenue est qu'il n'y avait pas assez d'argent pour les jeunes femmes. C'est un exemple suisse, mais je vous prie de m'assurer que ce n'est pas un exemple isolé. Alors là, vous comprendrez pourquoi j'étais si motivée de coordonner ce rapport sur l'invisibilité, enfin sur la santé des lesbiennes et des bisexuelles. En effet, il y a la plupart des rapports qui concernent les personnes LGBT ou même les rapports femmes survolent à peine, quand elles le sont, la spécificité des santé des lesbiennes. Et encore maintenant, bien que ça change petit à petit, mais il existe peu de recherches sur la santé des femmes lesbiennes et bisexuelles. Il ne faut pas oublier que la plupart des chercheurs, ce sont des hommes, et qu'il y a très peu de moyens financiers qui sont alloués pour ce type de recherche. Et en plus, il s'agit de faire des recherches sur un groupe minoritaire et en plus invisible. Donc, il y a un manque criant de communication. Et les informations qui existent au niveau local ne sont pas connues au niveau national et certainement pas au niveau international. L'objectif du rapport était donc de partager ces informations qui ont été collectées et valoriser les initiatives qui avaient été prises au niveau international afin que les différentes structures puissent s'en inspirer. Et un objectif peut-être un peu plus ambitieux était de sensibiliser les lesbiennes et bisexuelles elles-mêmes et les organisations mixtes, les organisations de gays. Parce que le constat est terrible, mais même les lesbiennes ne connaissent pas quels sont les risques spécifiques liés à leur santé. Et objectif encore plus ambitieux est de sensibiliser les prestataires de services de santé qui, dans beaucoup de cas, en estimant d'office l'hétérosexualité, finalement, ont des attitudes homophobes, quand elles ne sont pas clairement homophobes. Dans ce rapport, donc, on a tous les textes ont été écrits par des femmes, donc de différents horizons et continents. Certains étaient des chercheuses universitaires, d'autres étaient coordinatrices des projets, d'autres étaient simplement activistes. J'essayais de donner une place particulière aux femmes menant des projets dans des pays difficiles. Par difficile, j'entends des pays j'ai essayé donc, étant donné qu'il s'agissait d'un rapport international, de ne pas me centrer ou de trouver des exemples en dehors de l'Europe ou de l'Amérique du Nord où j'étais sûre que j'allais trouver des exemples. Ma surprise a été que j'ai trouvé beaucoup d'exemples dans des pays où je n'y attendais pas. J'étais par exemple impressionnée par le courage et par certaines des initiatives qui sont prises en Afrique ou en Amérique latine avec très peu de moyens, voire zéro moyen. Et je voudrais vous donner un exemple qui m'avait beaucoup touchée. C'est le cas d'une activiste nigériane qui a organisé un séminaire sur le plaisir sexuel. Ce qu'elle a voulu montrer, le séminaire était ouvert à toutes et à tous, et dans le séminaire, elle s'est adressée aussi aux hommes en disant, voilà, le plaisir de préférence s'offrir à Dieu, et si vous battez ou vous méprisez votre femme, eh bien, vous aurez moins de plaisir. Et dans ce contexte-là, donc, elle a pu parler donc de la violence faite aux femmes, du plaisir féminin, qui est quand même très tabou, même en Europe. Alors, on parle pas en Afrique. Et dans ce contexte-là, elle a réussi à faire un séminaire, donc à toucher des femmes qui aiment d'autres femmes. J'utilise spécifiquement ce terme parce que dans certains pays, se définir lesbienne n'a aucun sens, en particulier au Nigeria, où on est passible de peine de prison, voire dans certains contrées du pays, passible de peine de mort pour des actes considérés homosexuels. Donc voilà un exemple positif d'un pays que je considère difficile et d'une femme courageuse. Dans ce livre, dans ce rapport, on a pris en compte des questions locales comme le mariage arrangé ou le mariage forcé, mais aussi souligner des préoccupations communes comme par exemple le cancer du sein, qui touche une femme sur trois dans le monde, pas seulement en Europe. Et en particulier, il semblerait que les lesbiennes seraient plus atteintes du cancer du sein. J'ai aussi voulu donner un espace à des organisations dans le monde ayant mené des projets de santé sur les lesbiennes et bisexuelles. Et j'étais étonnée de me rendre compte du nombre de projets qui sont menés. Et pour la France, j'ai cité SOS Homophobie, mais aussi les universités d'été des homosexualités ou Bagdam Espace Lesbien. Le constat qui découle de ce rapport est que le matériel produit par les organisations locales n'est pas connu au niveau national ou international. Et il y a un réel besoin de diffuser les informations et faire connaître ces initiatives afin qu'on puisse s'en inspirer. En effet, il n'est pas nécessaire de réinventer quelque chose à chaque fois quand quelque chose existe. Autant, copier peut-être un terme qui ne plaît pas, mais justement s'inspirer et adapter le projet aux besoins locaux. Et pour finir, il est bien important de sensibiliser les lesbiennes, la communauté LGBT ainsi que les prestataires de services de santé, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai fait avec ce rapport, j'ai réussi à mettre en relation les différentes organisations travaillant sur des projets similaires. Et une chose qui m'avait beaucoup impressionnée, c'est que j'ai réussi à faire travailler ensemble, mettre en relation deux organisations en Écosse qui travaillaient sur un projet similaire et ne se connaissaient même pas. Alors, bon, l'Angleterre n'est pas si grand que ça quand même. Et grâce à la diffusion de ce rapport, ceci est utilisé comme document de travail par des multiples organisations LGBT. Ceci, je dois dire, est une grande satisfaction parce que j'ai appris qu'il a été traduit en chinois et certaines parties ont été traduites en russe. Mais ça montre aussi à quel point il manque des références. Et suite aux différentes demandes qu'on a obtenues, le rapport qui a été coordonné en anglais, va être traduit en français et en espagnol. Et à plus long terme, ILGA désire créer une plateforme web afin de collecter et diffuser les informations. Et à ce moment-là, les organisations auront la possibilité d'écrire sur le site leur initiative afin qu'elle soit connue. Alors j'insisterai sur le fait qu'il est important de visibiliser le travail des organisations locales. Et les organisations lesbiennes elles-mêmes, toutes seules, elles n'y arriveront pas. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut collaborer avec des associations LGBT mixtes progressistes. Je voudrais donner quelques exemples. Des exemples positifs, ça fait toujours du bien. Ce rapport sera traduit en français, entre autres grâce au soutien financier et logistique de l'association belge telle qu'elle, qui est une structure gay et lesbienne, et a priori pas spécialement progressiste non plus. Mais donc, c'est la première fois que cette structure soutient un projet exclusivement lesbien. Donc, c'est un bel exemple qu'il faut souligner. J'insiste aussi sur le fait qu'il est important de collaborer avec les associations féministes. Je sais qu'il est, historiquement, il a été très difficile et laborieux par moment de travailler de pair entre les associations lesbiennes et féministes, mais je pense que les deux ont intérêt à mener un combat ensemble. Et je voudrais donner l'exemple de Archilesbica, une association lesbienne italienne, qui est membre du lobbying européen des femmes. Et d'ailleurs, le lobby a décidé cette année que dans leur mandat serait inclus le soutien à l'égalité des droits des personnes du même sexe. Par ailleurs, Chelsea est également membre du réseau européen contre le racisme. Donc, je trouve que c'est un très bel exemple d'une association qui arrive à être sensibilisée aux discriminations multiples. Ensuite, j'insiste sur le fait qu'il est important de collaborer avec la société civile. Il est primordial de trouver ou de travailler avec des alliés comme des plannings, des fondations et aussi des bibliothèques. Et je voudrais donner à cela encore un exemple belge. Là j'ai traduit mes origines belgo-italiennes. Execo a travaillé, a coordonné une brochure avec une section du planning belge sur la sexualité entre jeunes filles. Et pour une fois, la brochure a été faite de manière séparée pour les filles que pour les garçons. Et pour une fois, ce n'est pas la brochure fille a été copiée de la brochure garçon. C'est vraiment une adaptation très spécifique pour les deux différentes communautés. Donc voilà, il existe des exemples positifs. Voilà, un peu de travail pour vous maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et d'abord, je vous invite à lire, à utiliser, diffuser les informations, en parler autour de vous, et si possible, si vous avez des projets, inspirez-vous des initiatives existantes. C'est pas nécessaire que vous utilisiez vos énergies à inventer quelque chose qui existe déjà. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des structures sont très heureuses de pouvoir fournir ou pouvoir donner le travail qui a déjà été fait. Donc, moi je donne cet exemple de Toyota. J'y ai travaillé pendant 8 ans et demi, donc je sais un peu de quoi je parle. Ils sont peut-être pas très inventifs, mais c'est des très bons copieurs. Donc, ils ont toujours travaillé à améliorer des produits qui ont été créés par des autres. Ben, ça a du succès, étant donné que c'est devenu la société automobile, la première société automobile au monde. Je voudrais aussi parler donc de l'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'une initiative emmène une autre. Et lorsque j'ai cherché des alliés et des fonds aussi pour le rapport ILGA, j'ai contacté la Fédération belge contre le cancer, qui a en effet soutenu qui a soutenu le rapport. Et suite à ce premier contact, nous avons coordonné un autre projet plus local. Au départ c'était pour la Belgique. C'était une brochure de prévention du cancer du sein à l'école de l'utérus. ILGA a coordonné et diffusé cette brochure avec d'autres organisations gays et lesbiennes locales. L'avantage d'avoir des alliés qui ne sont pas dans la communauté gays et lesbiennes est qu'ils peuvent toucher un public non communautaire. Toutes les lesbiennes ne se définissent pas lesbiennes, toutes les lesbiennes ne sortent pas dans les milieux homo. Et toutes les lesbiennes n'habitent pas à Bruxelles, à Paris ou à Lyon, donc dans des villes. Et cette brochure, déjà, s'adresse aux femmes qui aiment les femmes. Donc, il n'y a pas le terme lesbien. A été envoyée avec le magazine de la Fondation belge contre le cancer, dans dans beaucoup de maisons belges, donc aussi dans les foyers où il y a des petites vieilles, des petits vieux, des homophobes, etc. Et certainement, je suis sûre qu'elle a touché un public bien plus large que ILGA n'aurait pu faire. Cette brochure a été diffusée par la suite de ce projet. J'ai coordonné le même projet, enfin, j'ai fait traduire le texte en anglais et en espagnol, donc les deux langues officielles d'ILGA, et diffusé dans le réseau ILGA, en demandant aux organisations locales, ou en disant aux organisations locales, vous pouvez utiliser le texte, le traduire dans votre langue, changer les photos, les adapter à vos besoins, et vous avez l'avantage d'avoir un texte qui a déjà été approuvé par une équipe de médecins. Et cette initiative a été, à ma connaissance, pour le moment, a été reprise par une association en France, en Italie, au Mexique, au Sri Lanka, et j'attends encore un feedback, j'espère, un peu plus large. Pour la demande de fonds, je pense qu'il est important de montrer aux autorités locales ce qui est fait ailleurs par leur homologue. Pour deux raisons. Mais d'abord, ça visibilise du travail qui a été fait ailleurs, et en plus, ça rend jaloux. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai contacté la fameuse association Fondation Belge, je leur ai montré cette brochure, qui, je dois dire, est peut-être un peu plus provocatrice et plus révolutionnaire que celle qu'on a fait par la suite, mais j'ai dit à la Fondation, eh bien, regardez, la Fondation canadienne contre le cancer, qu'est-ce qu'ils sont progressistes? Ils ont travaillé avec une association lesbienne pour cette thématique. Eh bien, la personne était piquée dans son orgueil. Hein. Elle a dit, ben, nous aussi, et d'ailleurs, nous sommes prêts à faire d'autres projets, on n'a aucun a priori. Et en effet, c'est vrai qu'ils ont entièrement financé la brochure en point tel que et les organisations locales avec lesquelles on a travaillé, après on se disait, c'est pas normal, il doit y avoir quelque chose derrière, c'est suspect. Pour finir, je vous demanderai aussi de soutenir ILGA. Nous sommes une structure internationale, et nous n'avons pas beaucoup de fonds, et nous avons deux employés, nous travaillons aussi, c'est vrai, avec beaucoup de volontaires dans le monde entier. Et vous pouvez nous soutenir de manière différente. D'abord, de nous visibiliser le travail que nous faisons. Nous envoyer vos initiatives, et que nous ferons un plaisir de diffuser de manière plus large possible. Vous pouvez aussi devenir un membre d'ILGA, un membre individuel. Et si vous faites partie d'une organisation, l'organisation peut également devenir un membre d'ILGA. Ou bien vous pouvez faire tout simplement une donation. Voilà, c'est tout.
Merci Patricia Cuffy. Avez-vous des questions?
Micro. Donc là, on demande ce que ça veut dire ILGA. Donc c'est l'Association internationale des gays et des lesbiennes, donc en anglais International Lesbian and Gay Association, c'est l'acronyme. Et c'est intéressant par rapport au nom de l'organisation, au début elle s'appelait IGA, International Gay Association, car en effet au départ elle a été créée par un groupe de gays. Et puis, des gays qui ont toujours travaillé avec des lesbiennes. Et à un moment donné, les lesbiennes ont voulu être reconnues pour le travail qu'elles faisaient aux côtés des gays. Et c'est comme ça qu'on a changé le nom en ajoutant le L. Et par ailleurs, en Amérique du Sud, où nous avons beaucoup d'associations transgenres, transsexuelles, qui membres d'ILGA, ils ont rajouté le T. Donc c'est ILGA. Donc l'importance aussi de la visibilité au niveau du nom.
Bien, on va passer à l'intervention suivante. Sabrina Raffaël, c'est chercheuse en sciences sociales, activiste LGBT, féministe. Elle a entre autres travaillé sur les mutilations génitales et plus récemment avec Jules Paquet sur les femmes fuyant leur pays en raison de leur lesbianisme. Je sais pas.
Bonjour tout le monde. Merci à Sylvie et puis à Anthony, je ne sais pas si vous êtes dans la salle, de nous avoir invités. C'est vrai que ce qui était intéressant en intervenant dans le cadre de vos assises, c'était justement le thème de la visibilité, la visibilité des lesbiennes, et qu'il faudrait effectivement associer à la visibilité, bien sûr, et aux difficultés de cette visibilité, et bien sûr, à l'aspect quelquefois positif d'une invisibilité, comme tu disais tout à l'heure. Le propos de mon exposé se basera sur un article qui a été coécrit avec une autre chercheuse, Sylvie, on a parlé, donc Jules Falquet, à l'occasion d'un colloque international en septembre 2006 sur les persécutions envers les femmes et leur protection internationale, autrement dit le droit d'asile. Jules Falquet et moi avions tout de suite pressenti que si les intervenants ou les intervenantes allaient parler des violences sexo-spécifiques ou des violences à l'encontre des femmes, eh bien, il y aurait incontestablement un sujet qui n'allait pas du tout être traité, à savoir la situation dramatique, la situation qui court des lesbiennes dans le monde, situation qui oblige ces femmes à fuir leur pays. Et effectivement, juste une petite anecdote, quand il y a eu la présentation de toutes les interventions lors de ce colloque, qui avait duré quand même 3 jours, hein, avec des spécialistes, avec des spécialistes en sciences sociales, en anthropologie, mais aussi des sociétés, des personnes issues de la société civile, c'est-à-dire des organisations, etc. Eh bien, effectivement, aucun sujet ne portait directement ou indirectement sur la question des lesbiennes. C'est vous dire le peu d'intérêt, vraiment, et l'inexistence, bien sûr, de cette thématique. Alors, effectivement, le but à travers l'article, en tout cas l'exposé, la proposition de Jules Falquet et moi, lors de ce colloque, c'était justement de rendre visible la situation des lesbiennes, de la rendre visible pour différentes raisons. Quand on parle de protection internationale, forcément on parle de droit d'asile. Et quand on parle de droit d'asile, on parle de la Convention de Genève de 1951. Donc mon propos ne va pas être un propos ou un exposé technico-juridique. Simplement vous rappeler que le droit d'asile, on octroie le droit d'asile, une personne est statutaire après de ce droit d'asile sur la base de motifs de persécution selon sa race, sa nationalité, son appartenance politique, son appartenance à un groupe social. Donc, le deuxième but, c'était de participer lors de ce colloque à une meilleure approche, à une meilleure compréhension aussi, et à une meilleure prise de considération des violences faites aux femmes, pour qu'après, au sein des institutions telles que l'OFPRA, et puis la CRR, enfin l'OFPRA c'est l'Office français des apartheid et des réfugiés, autrement dit c'est la première institution française qui donne ou qui refuse le droit d'asile, et si en cas de refus le droit d'asile par l'OFPRA, c'est la CRR, c'est-à-dire la commission des recours des réfugiés qui statue. Laquelle commission de recours des réfugiés peut à son tour soit annuler la décision négative de l'OFPRA, soit donc en octroyant le droit d'asile, soit la refuser. Ce qu'on apprend en fait quand on réfléchit sur la question des lesbiennes et leur situation en tant que femmes persécutées, c'est que au niveau de ces instances, la demande de droit d'asile de ces femmes en général, mais des lesbiennes en particulier, n'est pas très bien considérée. Autrement dit, il n'y a pas du tout une approche genre pour bien prendre en considération la demande des demandeuses de droit d'asile. Très souvent, les demandeuses de droit d'asile, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'invisibilité, de la nécessité d'invisibilité dans le pays d'origine comme étant une nécessité de survie, une urgence, hein, de survivre tout simplement, et de se protéger, eh bien on se rend compte que ces femmes vont taire leur lesbianisme ils vont faire, vont faire leur lesbianisme déjà dans les pays d'origine, et une fois arrivés dans les pays d'accueil, en l'occurrence la France, et qu'elles devront à leur tour présenter une demande de droit d'asile, justement parce qu'elles craignent pour leur vie en cas de retour dans ce pays, eh bien on s'est rendu compte que eh bien ces femmes-là ne pouvaient pas prouver leur lesbianisme. Et ça, c'était très problématique pour nous, les activistes, hein, et puis les activistes, les féministes, en tout cas, qui réfléchissent sur le droit d'asile concernant les femmes, parce que non seulement ces femmes, dans leur pays d'origine, devaient taire devaient cacher leur lesbianisme pour ne pas être ne pas subir des persécutions, si ce ne sont pas des persécutions étatiques, puisqu'il y a quand même une criminalisation de plus de 80, dans plus de 80 pays dans le monde, si ce n'est pas une criminalisation, c'est à tout le moins une pénalisation. Et puis taire aussi, craindre aussi taire son invisibilité parce qu'elle craignent des menaces et des représailles de la part de la communauté, de la part des familles, et que par conséquent, elles n'étaient pas dans un lesbianisme, en tout cas visible. Et une fois arrivées à l'OFPRA, l'OFPRA leur demande, les accable d'une charge de preuve, et leur demande tout simplement de prouver cette visibilité. Et c'était pour nous effectivement très, très problématique, parce que très souvent, de facto, les demandes de droit d'asile étaient refusées. Donc c'est d'ailleurs ce genre de constat dramatique, assez particulier quand même en France, parce qu'en France, l'OFPRA a une interprétation restrictive de la Convention de Genève. Hein. Il ne suffit pas d'être lesbienne pour avoir le droit d'asile, hein, ou à tout le moins l'asile subsidiaire. Alors c'est encore pire, mais je reviendrai sur cette notion-là. Faut-il encore être dans son pays, prouver avec une pancarte, oui, je suis lesbienne, oui, je suis gay, etc., et être persécutée, c'est-à-dire prouvant qu'on a des marques, qu'on a peut-être subi une détention abusive, une torture, un viol, et seulement après venir, si on arrive à s'en sortir, venir en France et bien sûr demander le droit d'asile. Donc c'est face à ce constat dramatique qu'il y a eu, par exemple, la création du GRAFRE, dont je suis fondatrice en 2004, et qui est le groupe de réflexion et d'action sur le droit d'asile et les femmes. C'est un groupe inédit parce que c'est la première fois que on va initier une réflexion, une approche genre pour mieux accompagner les demandeuses de droit d'asile. Et puisqu'on parle de visibilité et d'invisibilité, même au sein même des associations qui sont spécialistes et compétentes sur le droit d'asile, eh bien, il n'y avait pas du tout cette démarche, cette approche de genre. Et ce qu'on appelle approche de genre, c'est que ils n'étaient pas conscients qu'une demande de droit d'asile établie par un homme ne devait pas être considéré comme la demande d'asile faite par les femmes, parce qu'encore une fois, on a l'habitude de voir depuis longtemps des hommes qui viennent, qui demandent des droits d'asile, on leur a toujours facilement octroyé pour peu qu'ils prouvent leur appartenance à un parti politique ou leur opposition, etc., de leur donner. Mais pour les femmes, c'était pas si évident que ça. Ça n'a commencé à être évident que dans les années 90, avec notamment les mutilations sexuelles féminines, parce qu'on a de plus en plus parlé des mutilations sexuelles féminines, avec les MF aussi, les mariages forcés, et les crimes d'honneur, et un petit peu avec l'orientation sexuelle, qui au tout début était plus donnée aux hommes, était plus facilité aux hommes que pour les femmes. Et tout ça ressortait, soulevait au fait toute la question justement de cette vision un petit peu machiste, patriarcal, même au sein même des ONG, quoi. Hein. Donc ça, c'était assez à titre flagrant, et ce groupe essaie justement de réfléchir pour former aussi bien ces associations qui luttent pour le droit d'asile, pour une meilleure compréhension du droit d'asile au féminin, si je veux dire, en tout cas pour les femmes, et luttent aussi au niveau de l'OFRA et de la CRR, bien pour que ces instances-là soient formées sur les violences cette femme, parce qu'on s'est rendu compte que il va y avoir un entretien entre l'officier et la demandeuse de droit d'asile, mais sans connaître pour autant que c'était que cette femme a subi un viol, et qu'il est difficile pour une femme de parler de viol, surtout que c'était en plus un viol collectif. Et bien tout ça, c'est ce qu'on appelle une approche au genre, à laquelle les instances dans un pays tel que la France, qui était inexistante et qui reste encore inexistante. Peut-être moins inexistante maintenant, parce que on a mené depuis 2004 des actions de lobbying, de pression auprès de ces instances. Donc ce que quand on parle aussi de la situation des lesbiennes, c'était un des buts dans le cadre de ce colloque, et aussi un objectif dans le cadre de vos assises, cet après-midi, c'est aussi quand on parle de la situation des violences faites aux lesbiennes, eh bien, il y a différents facteurs qui expliquent que ces violences faites aux femmes, et en particulier faites aux lesbiennes, eh bien, ce sont des violences qui persistent, parce que d'une part, il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, une criminalisation et une pénalisation, c'est-à-dire au moins 80 pays dans le monde criminalisent l'homosexualité et de facto, bien évidemment, le lesbianisme. Le deuxième facteur, c'est que même quand il n'y a pas de criminalisation, même quand il n'y a pas de pénalisation de l'homosexualité, il y a une homophobie, et je dirais bien sûr dans le cadre des lesbiennes, mais je me concentrerai sur les lesbiennes, de lesbophobie. Et je prends pour exemple, parce que tout à l'heure Patricia a parlé de la Pologne, pays qui est dans l'Union Européenne. La Pologne, en 2006 déjà, bon je suppose que vous êtes au courant, mais déjà en 2006, ont réprimé d'une manière violente des défilés de la LGBT Pride, je pense que c'est à Varsovie, etc. Et puis, avant de venir, histoire d'actualiser mon propos, eh bien, le gouvernement est en train, je dis bien la Pologne, hein, donc on va pas en Asie, on va pas en Afrique, on va dans un pays qui appartient à l'Union Européenne, donc ce n'est pas un pays qui demande son entrée à l'Europe, le gouvernement est en train de préparer un projet de loi. Alors excusez-moi, je vais, comme c'est hyper technique, donc je vais essayer de prendre mes notes. Et c'est le gouvernement en place hein, qui le met. Donc il s'agit mon Dieu. Voilà. Alors il s'agit donc le gouvernement qui est représentant en fait d'une coalition ultra-conservatrice donc en Pologne, et lui donc il propose une loi interdisant, j'ouvre les guillemets, parce que je reprends hein, là je cite, toute propagande homosexuelle dans des écoles et dans des lieux de repos des enfants et aussi, alors là je ferme les guillemets, donc petit commentaire, en fait c'est une loi aussi qui est censée pénaliser les professeurs, les instituts et les instituteurs, hein, ou institutrices, qui effectivement invite des militants LGBT pour parler de discrimination envers ces minorités. Et le ministre, je suppose, de l'éducation et de la jeunesse n'exclut pas de licencier les professeurs et les instituteurs qui vont qui inviteraient des militants LGBT, et il va même jusqu'à prévoir, c'est pas encore entré, hein, c'est un projet, prévoir des sanctions, voire même une détention. Donc vous voyez bien que on n'est vraiment pas à l'abri effectivement de ce cadre, c'était le deuxième facteur, hein, de ce cadre, même s'il n'y a pas une criminalisation, il y a une institutionnalisation de la lesbophobie. Alors j'ai cité la Pologne, mais vous prenez rien qu'en 2006, rien que l'année 2006, vous prenez une interdiction de la LGBT à Tel Aviv, dans un pays européen, en Israël, interdiction de la LGBT Pride à Moscou, et à Saint-Pétersbourg. Et quand je dis interdiction, c'est interdiction plus représailles, plus agression de la part des policiers qui sont censés effectivement protéger les militants et les militantes. La Pologne. Je n'oublie pas non plus l'Estonie. La Lettonie, qui par exemple encore a une législation homophobe et lesbophobe dans le cadre notamment du travail, et bien sûr d'autres pays africains tels que le Ghana, qui avait refusé en 2006 la tenue d'une conférence sur la visibilité LG plutôt, lesbienne et gay, bref, sur l'homosexualité, qui avait donc été interdite. Donc vous voyez bien que les lesbiennes ne sont pas à l'abri, déjà ne sont pas à l'abri du fait des violences qui touchent les femmes, hein, basées sur le sexe, basées sur le genre, et en plus elles sont transgressives parce qu'elles remettent en cause une sexualité dominante, à savoir une hétérosexualité, donc l'hétéropatriarcat, et que par conséquent elles bousculent les hiérarchies et deviennent ennemies numéro un, si je sais. Un autre facteur aussi qu'il était important, voire urgent de mettre en exergue, c'était la responsabilité de l'État, autrement dit des agents étatiques. On s'est rendu compte dans nos recherches sur le terrain que même s'il y avait une protection légale des violences contre les femmes, ou en tout cas des personnes LGBT, il n'empêche que quand il y avait des agressions, quand les lesbiennes étaient agressées ou avaient subi des persécutions, des menaces, eh bien ces lesbiennes-là ne pouvaient pas déposer plainte auprès de ces policiers, ne pouvaient pas signaler ces agressions-là auprès des structures hospitalières, hein, c'est-à-dire des hôpitaux, tout simplement parce qu'elles craignaient, parce qu'elles craignent de la part de ces policiers qui sont censés les protéger, censés faire respecter la loi, eh bien, de les violer. Et effectivement, on voit qu'il y a des policiers qui vont violer ces lesbiennes qui sont venues les voir justement pour réclamer, pour se prévaloir de leur protection, qui vont les menacer, hein, pour qu'elles se taisent. Donc vous voyez bien que ce sentiment, ce facteur d'impunité dont jouissent les agents étatiques, avant on parlait de non étatiques, maintenant les agents étatiques, eh bien ce contexte d'impunité contribue aussi à faire persister les violences envers les lesbiennes. Un autre facteur aussi important, c'était le tabou. C'est vrai que on oblige les lesbiennes à voir en face leur sexualité comme étant une sexualité anormale, qui ne doit pas exister, parce que après tout ce sont des femmes, et que leur premier rôle, bon, ben, c'est de se marier, et leur deuxième rôle, c'est de porter des enfants, et leur troisième rôle, eh bien, c'est d'assurer les valeurs traditionnelles, familiales, etc., etc. Eh bien, on leur inclut que eh bien, sortir de ce chemin-là, sortir de ce droit chemin, entre guillemets, eh bien, c'est un tabou, il n'y a pas lieu d'être, et elles intériorisent tellement ce tabou, elles intériorisent tellement cette lesbophobie que ces lesbiennes ne vont pas effectivement pour certains en tout cas, se rebeller contre cet état de fait. Donc voilà en gros hein, ce qu'on peut dire sur cet état de situation des lesbiennes, mais tout ça, on voit bien que ce sont des facteurs qui, in fine, en fait, contribuent fortement à un désintéressement, si ce n'est à l'invisibilité des lesbiennes.
Merci, Sabine.